Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Décolonisation, le podcast qui parle des colonisations et des empires. Dans le dernier épisode, on a parlé de la statue de Joséphine de Beauharnais, la femme de Napoléon, qui était installée place de la Savane à Fort-de-France. Cette statue a été érigée comme symbole du pouvoir et de la domination des créoles martiniquais sur les anciens esclaves. Et dans les années 70, à partir des années 70 en fait, elle a été déplacée, enduite de peinture, taguée, décapitée, classée monument historique sans sa tête, pour désamorcer le pouvoir qu'elle incarnait. En 2020, elle a été détruite par des militantes et des militants comme un autre monument martiniquais, celui de Belin-des-Nambuc, qui avait pris possession de l'île au nom de la France et était le premier gouverneur des Antilles. Ce type de monument, qui représente le pouvoir des colonisateurs, des armateurs, des gouverneurs sur les populations esclavisées et sur les esclaves, a fait l'objet de contestations depuis les années 70 et surtout 80 dans les départements et les territoires d'outre-mer français.
Mais y a déplacé Joséphine, y a déplacé monument au bord. C'est le bagaille qui a arrêté pour y a déplacé, c'est y a déplacé Joséphine.
À travers le monde, ces monuments sont nombreux à avoir été renversés ou déplacés depuis les années 2010. En France, deux d'entre eux ont été déplacés par les municipalités après la vague de contestation des années 2020 et 2021. C'est le cas de la statue du gouverneur Aulry, retirée de la place des Cocotiers à Nouméa en 2021, et de la statue du gouverneur Mahé de la Bourdonnais, retirée de la place Candide Azéma à Saint-Denis de la Réunion en 2023. Contre ces monuments, en plus de ces monuments, à côté d'eux parfois, de nouveaux monuments sont venus raconter d'autres histoires. Celles des esclaves résistants et résistantes, les marrons, celles des combats pour la liberté, celles de la mémoire de l'esclavage. Certains de ces monuments ont aussi été pris à partie. Lorsque les gestes étaient revendiqués ou les symboles tagués identifiés, ils étaient ceux de l'extrême droite. C'est le cas par exemple du mémorial du Nègre Marron réalisé par Jocelyn Pézeron à Sainte-Anne en Guadeloupe, enduit de peinture blanche et tagué d'une croix gammée. C'est le cas aussi de la statue de l'abolition de l'esclavage réalisée par Lisa Marco des Rouards à Nantes. Pour ce second épisode de notre série consacrée aux monuments contestés, nous voudrions partir de cette statue pour vous raconter l'histoire longue du travail sur la mémoire de l'esclavage mené en France, à partir de l'exemple de Nantes, qui a été le plus grand port de traite. Les historiennes et les historiens ont établi que plus de 1700 navires avaient été armés pour transporter des esclaves du milieu du XVIIe au XIXe siècle. Alors pour parler de cette mémoire, nous sommes quatre aujourd'hui. Je suis très heureuse d'accueillir et de pouvoir discuter avec Thaïs Tanur, qui est historienne, doctorante, qui travaille sur la mémoire de l'esclavage de manière croisée et comparée entre Nantes en France et Rio de Janeiro au Brésil. Bonjour Thaïs.
Bonjour.
Également avec nous, Octave Sestor, qui est fondateur de l'association Combit d'Hommes au début des années 80, qui a vraiment entrepris de commémorer la présence et l'expérience de la présence des esclaves à Nantes. Et avec cette association Combit d'Hommes, Monsieur Sestor, vous avez organisé d'abord des jets de fleurs dans la Loire en mémoire des esclaves jetés à la mer. Et puis vous avez fondé plus tard, à la fin des années 1980, l'association Mémoire d'Outre-mer, avec laquelle vous avez réuni d'autres associations dans le collectif du 150e, qui a été actif dans les célébrations commémorant les 150 ans de l'abolition de l'esclavage en 1998. Bonjour.
Bonjour.
Enfin, Sofiane Leterrier, vous êtes historienne, spécialiste d'histoire sociale et culturelle de la musique et des fêtes populaires. Et on a travaillé ensemble sur des projets de recherche universitaire sur les monuments contestés liés à l'histoire de la colonisation et de l'esclavage. Et en ce moment, on travaille sur les statues dites rapatriées qui ont été ramenées par les militaires français au moment de l'indépendance de l'Algérie. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Et je suis Julie Marquet, je suis historienne, maîtresse de conférences à l'Université du Littoral Côte d'Opale et je travaille sur ces objets, ces monuments contestés. Bonjour à toutes, bonjour à tous à nouveau. Pour commencer, Octave Sestor, est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de cette statue, de l'abolition de l'esclavage? D'où vient-elle? Comment avez-vous pensé sa présence? Comment est-elle arrivée à Nantes.
Oui, la statue, c'est un hasard hein, que cette statue a été érigée à Nantes. C'est en 1998. Nous souhaitons commémorer le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage à Nantes. Et j'avais proposé à la municipalité, pour marquer ce 150e, d'apposer un panneau, une marque hein, sur Nantes pour marquer effectivement que Nantes avait marqué cet anniversaire. Et là, la ville de Nantes m'avait répondu que Nantes n'était pas prêt et qu'il était trop tôt. Et donc, le hasard a voulu que j'ai rencontré Lisa Marcoux-Deroy, cette jeune étudiante des Beaux-Arts, qui nous a proposé donc un projet. C'était un bâtiment à laisser et des sculptures. Et donc, cette statue a été réalisée de manière secrète à Nantes. Personne n'était au courant. Et pour le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, le président de la République, c'était donc Jacques Chirac à l'époque, avait donné consigne à tous ses préfets d'être présents sur le territoire à partir du moment où il y avait effectivement des événements marquants effectivement sur ce 50e. Et à Nantes, effectivement, ils sont venus dans la nuit de la veille effectivement de ce quelques commémorations. Nous avons ramener ces statues donc sur le quai de la Fosse, enrubannées, cachées, et le lendemain devant toutes les autorités, nous avons dévoilé en présence avec Elisa, bien entendu, nous avons dévoilé cette statue.
Est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus en quelques mots sur l'association? Vous dites que l'association a commandé et financé la statue. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association et de votre engagement dans les années 90 et en amont de 1998 dans cette demande de reconnaissance et de célébration de l'abolition de l'esclavage?
Tout a commencé à Nantes en 1983 avec la création du Combidome. On avait créé effectivement cette association. Le premier objectif était pour instruire, je dirais, historiquement nos compatriotes de leur histoire qui est oubliée. C'est-à-dire, on était tous avec nos ancêtres les Gaulois et nous n'avions pas appris effectivement l'histoire de nos propres territoires. Et c'est cette rencontre brutale avec le racisme qui m'a conduit à faire, m'a mis en place cette association Combidome. Et la réaction de la municipalité, c'est en 85 que ça s'est produit. Et pour commémorer le 500e du Code Noir, la ville de Nantes, le 300e du Code Noir, la ville de Nantes avait refusé de participer à ce projet. Et c'est comme la ville pour et a refusé de participer à ce projet que j'ai dit je prends un défi, je soulève le défi. Et à partir de là, j'ai mis en place la commémoration de l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire ce jet de fleurs en noir, jet de fleurs qui est aujourd'hui le geste officiel de la commémoration.
Et les mobilisations continuent et s'amplifient dans les années 1990 et au début des années 2000.
Ah oui, ça s'est jamais arrêté à Nantes. Effectivement, ça a été pour nous un vrai combat depuis cette statue. Vous savez, une fois que la statue a été inaugurée à Nantes.
Thaïs, est-ce que tu pourrais nous parler de cette période de la fin des années 90 et du début des années 2000? Qu'est-ce qui se joue en fait à ce moment-là? Qu'est-ce qui se cristallise? Et surtout, qu'est-ce qui avance dans la reconnaissance de l'esclavage, dans la commémoration de son abolition? Une anthropologue qui s'appelle Christine Chivalon dit qu'à ce moment-là, il y a une résurgence du souvenir de l'esclavage et que la mémoire de l'esclavage commence à être travaillée, à devenir un objet presque public.
Au fait, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut vraiment revenir aux années 80. Donc à Nantes, Octave Sestor crée cette association Combidome. Et au niveau national, il y a aussi la première loi de commémoration de l'abolition de l'esclavage qui est promulguée sous la présidence de François Mitterrand. Cette loi, elle est importante parce que c'est une loi qui, selon les territoires et les départements d'outre-mer, la date change. Donc ce sont les histoires locales qui souvent mettent l'accent sur l'action des esclavisés et des résistances qui donnent lieu à cette commémoration. Donc, à Nantes, dans les années 80, il y a ces colloques qui voudraient commémorer les Côtes-Noires en 85. La municipalité, elle refuse de financer une initiative officielle commémorative, comme a dit M. Sestor, ce qui amène suite à un changement de municipalité avec l'arrivée de Jean-Marc Ayrault en 89. Donc, plusieurs personnes travaillent au sein de cette municipalité, dont Octave Sestor, dont Yvon Chotard, des personnes qui vont œuvrer pour réaliser une première exposition sur la traite transatlantique à Nantes. Une exposition qui fait vraiment figure de pionnière, qui compose la mémoire collective de la ville, l'exposition « Les anneaux de la mémoire ». Donc, à partir de là, ces acteurs au sein de la municipalité vont demander une initiative pérenne des commémorations, donc ça bien avant 98. Mais l'idée, c'était surtout de faire un musée à Nantes. Après, on disait que c'était surtout un musée national à Paris qu'il fallait. Donc, des discussions entre société civile et les pouvoirs publics sont entamées. Et donc, en 98, en effet, avec les commémorations officielles et non officielles de mémorialisation de l'esclavage lors de l'anniversaire des 150 ans de l'abolition, la marche à Paris, la marche silencieuse en hommage aux esclavisés, donc une initiative première de mémorialisation, de rendre hommage aux esclaves, est menée. Et c'est aussi les moments où la statue de la délivrance est mise sur les quais de Nantes.
On le voit en fait, ce moment-là, là, de 1998, dans cet extrait de journal télévisé qui reprend la prise de parole de Christine Taubira.
Le 23 mai 1998, dans les rues de Paris, 40 000 personnes manifestent pour ne jamais oublier ce que les esclaves ont subi. Une manifestation de mémoire, mais aussi une réclamation, faire de l'esclavage un crime contre l'humanité. Une marche qui lance le processus. Fin 1998, Christiane Taubira, alors députée de Guyane, dépose une proposition de loi avec la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité en article 1er.
Parce que cet article 1er contient tout le souffle de nos élans, toute la vigueur de notre détermination à refuser silence et complicité au crime. Il dit bien combien nous nous sentons frères des hommes, frères de tous les hommes, dans la souffrance, mais aussi dans la révolte contre cette injustice inqualifiable qui a prétendu éjecter de l'humanité une part d'elle-même.
Prise de parole et propositions qui conduisent à la loi de 2001. Tu peux nous dire un mot sur cette loi, Thaïs ?
Oui, donc Christiane Taubira, elle propose à l'Assemblée nationale, avec Jean-Marc Ayrault, cette loi qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Cette loi, elle prévoit l'enseignement de l'histoire de l'esclavage dans l'enseignement public. Au départ, elle prévoyait aussi des modalités, enfin, d'une réflexion collective sur des modalités de réparation. Quand la loi, elle passe au vote, cette partie, elle est retirée, mais la loi, elle est adoptée en unanimité et donc elle est promulguée en 2000 ans. Et c'est aussi l'année de la conférence de Durban, la grande conférence contre les racismes, c'est qui aussi promeut donc cette idée que l'esclavage est un crime contre l'humanité.
Et donc c'est dans ce contexte, ce moment où quelque chose se passe dans la reconnaissance de la traite, de la réalité de l'esclavage et de son abolition, que la statue est installée quai de la Fosse à Nantes. C'est une statue qui a les bras levés au ciel, qui se libère des chaînes qui l'enserraient dans un mouvement de liberté retrouvée. Sophie, cette statue représentant une silhouette féminine, ses bras levés au ciel, elle prend comme souvent en histoire de l'art une autre statue pour modèle, une autre statue nantaise. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette première statue ?
Oui, alors en deux mots, la statue de la délivrance d'Émile Guillaume, c'est une statue dont le modèle a été imaginé par le sculpteur dès le début de la guerre de 14, au moment de la bataille de la Marne, et qui a donc une première, un premier avatar sous forme de cadeau fait par un journal aux municipalités martyres de la guerre de 14, avant de faire l'objet d'une commande officielle, qui est donc la commande de la ville de Nantes, hein, qui a lieu dans les années 20, donc la décennie suivante. Et la municipalité de Nantes achète donc l'œuvre au sculpteur, Et le contrat stipule que l'œuvre sera unique et que ses répliques seront limitées et soumises à conditions. Et donc cet ensemble qui comporte un monument aux morts, ou plutôt des tables mémoriales qui ont été réalisées par Camille Robida sur une place publique de Nantes, devant laquelle se dresse la statue de la délivrance, coulée en bronze, est inaugurée en juillet 1927. Et cette statue, qui, comme son nom l'indique, représente la délivrance, représente une femme nue, les deux bras en V, tenant dans sa main droite un glaive, pour signifier que la délivrance, elle n'est pas obtenue comme ça, sans rien faire, bien sûr, mais par le combat, est installée devant les tables mémoriales et donc montre sa face arrière à la liste des morts qui figure sur les tables. Et cette érection, donc en 1927, se passe dans un contexte d'hostilité entre la municipalité nantaise et la droite catholique, qui aussitôt dénonce la sculpture comme une sculpture obscène, qui n'a pas du tout sa place devant un mémorial et un monument aux morts, et la statue en question est donc notamment critiquée à cause de sa nudité. Elle est d'abord affublée d'une chemise de nuit par des militants d'extrême droite, puis carrément vandalisée, détruite à coups de hache. Donc ça fait l'objet d'un procès. Les vandales reconnaissent tout à fait leur action et même la revendiquent, mais ils sont assez peu condamnés pour ça. La ville s'engage donc à réinstaller la statue sur un socle la mettant hors de portée des vandales, ce qui sera fait 10 ans plus tard, donc en 1937. Puis pendant la guerre, elle est à nouveau déposée pour éviter d'être saisie et fondue par les Allemands. Et elle revient à Nantes dans les années 50 pour en être réinstallée dans un autre lieu d'ailleurs, à l'extrémité est de l'île de Nantes, qu'à la fin des années 80, dans le contexte dont on vient de parler, donc qui est un contexte où la question de l'esclavage et de sa mémoire revient tout à fait à l'ordre du jour. C'est probablement pour ça d'ailleurs qu'elle a été le modèle de la sculpture dont on vient de parler, parce qu'il y avait certainement eu des articles dans les journaux et puis des manifestations autour de cet événement de réinstallation de cette statue de la délivrance à Nantes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, cette première statue elle-même a déjà eu une vie très très compliquée, très contrariée, pour des raisons qui n'ont, pour le coup, pas grand-chose à voir avec la mémoire de l'esclavage, même rien, on peut dire, mais qui ont quelque chose à voir avec les mémoires minoritaires, avec la représentation des femmes nues, avec en fait des options esthétiques qui caractérisent la gauche contre la droite, on pourrait dire, pour faire simple.
C'est donc un symbole fort qui est choisi par l'artiste pour réaliser la sculpture qui s'appelle l'abolition de l'esclavage. C'est ce personnage féminin qui a été pris à partie par l'extrême droite, qui a été retiré pour ne pas disparaître avec les bronzes saisis par les autorités allemandes. Et donc, Lisa Marco Desroires reprend la forme de cette femme au bras levé pour représenter la délivrance de l'esclavage. Octave Sestor, est-ce que vous pouvez nous dire comment cette œuvre est accueillie, comment elle est installée, ce qu'elle devient après son inauguration devant les caméras de télévision?
Il y avait à peu près 5000 personnes pour cette commémoration du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage à Nantes, sur le quai de la Fosse. C'était juste sur le port. Nous l'avions installé sans autorisation des autorités parce qu'ils ne savaient pas qu'ils existaient. Il a fallu attendre 8 jours pour que ce statut soit profané, c'est-à-dire les personnes qui ont profané la statue connaissaient le code noir. Ils ont appliqué à cette statue le code noir, c'est-à-dire on lui a coupé un bras, on lui a coupé une jambe, et puis on l'a plié complètement. Il y a eu une lutte avec la société civile, parce qu'il y a des gens le soir qui revenaient installer donc ces statues pour leur remettre le droit, bien qu'elle était une partie déjà dans la loi. Et puis quand j'ai vu que ça créait un problème au niveau de la société, là, les gens qui commençaient à se battre par rapport à ça, j'ai demandé à la ville de Nantes si elle acceptait effectivement de prendre ce statut. C'est-à-dire qu'on a fait don à la ville de Nantes, donc don au château des Ducs de Bretagne. Le statut est actuellement été un petit peu rénové et se trouve au château des Ducs de Bretagne où il sort pour les grandes expositions du château.
Suite à la violence exercée sur la statue, la municipalité décide de la création d'un mémorial de l'abolition de l'esclavage. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce processus de décision
Oui, on est en face effectivement d'une décision négative quelques mois précédents, hein, où la ville avait refusé la plaque commémorative pour marquer le 150e anniversaire. Mais la réaction de la population nantaise par rapport effectivement à cette profanation a fait que la ville a décidé, dans son conseil municipal de juin 1998, disant la création de ce mémorial. Et ça fait longtemps qu'on porte, nous-mêmes, je portais ce combat d'un mémorial à Nantes, parce que, et qui me différencie un peu avec les anneaux de la mémoire, qui, eux, étaient pour ce musée, comme on a bien entendu tout à l'heure. Moi, je considérais que le musée, doit se trouver à Paris. D'ailleurs, il est toujours pas encore à Paris. Il y a rien qui se passe à Paris, d'ailleurs. Et que à Nantes, c'était un mémorial avait sa place, avait son sens dans la première ville, la capitale de la traite négrière en France. Je pense qu'elle avait sa place là. Donc, j'ai lutté pour ça. Mais même si la décision municipale se fait un mois après, très très rapidement. Il faut pas croire que ça s'est fait tout seul, parce que entre cette décision et l'inauguration de ce mémorial à Nantes, il a fallu 14 ans. 14 ans de lutte, 14 ans de résistance. On a freiné les dossiers, on a modifié les projets initiaux. Ça a été une vraie lutte politique avant de voir l'inauguration.
Thaïs, toi qui travailles précisément sur ces questions, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de ces luttes, de ce très long processus et de ces enjeux à la fois locaux, nationaux, voire internationaux ?
Oui, pour les cas des Nantes, donc, il faut se souvenir qu'il a fallu 14 ans entre 1998 jusqu'en 2012 pour que les mémorials soient inaugurés. Donc, des discussions entre les pouvoirs publics, la société civile ont été entamées. De soutien de la part de l'État français ont été recherchés, mais l'État n'a jamais soutenu financièrement la réalisation du mémorial. Mais si on pense, au départ, les projets, c'était de faire une petite statue, donc sur ce subscription publique, que les gens fassent des donations afin de faire une petite statue. Le projet, il a pris vraiment de l'ampleur. C'est les coûts de ce projet aussi, ils ont vraiment augmenté parce qu'il a été réalisé donc en lien avec une réforme du port et tout un projet urbanistique lié au port de Nantes. Et donc, si je peux parler de contexte là plus international, en 1994, la route de l'esclave, les projets de mémorialisation transatlantique de l'esclavage a été créé, inauguré au Bénin sous l'initiative d'Haïti. Et à la suite de ces projets de l'UNESCO, plusieurs villes ont cherché à mettre en avant les traces et les marques du passé esclavagiste, comme c'est le cas au Bénin, à Ouida et d'autres villes dans le monde. Donc, quand on est à Nantes, lors des années de la mémoire, en 92, il y a cette première exposition, et les acteurs nantais, ils sont vraiment partie prenante à ces processus internationaux. Au sein de l'UNESCO, il y a des personnes qui voyagent au Bénin, qui vont à Nantes, qui vont au Brésil aussi. Enfin, mon autre terrain, c'est à Rio de Janeiro. Donc, il y a des personnes de la municipalité nantaise qui, en 92, voyagent au Brésil pour une conférence de l'ONU et pour suivre les activités d'un bateau qui s'appelle Cargo 92. C'est un navire culturel frété par la ville de Nantes qui devrait représenter des spectacles de théâtre, des musiques et des danses en Amérique latine, comme faisant partie du projet des commémorations du voyage des colons, de Christophe Colomb. Donc, c'est vraiment la mémoire de l'esclavage. Dans ces années 90, elle est élaborée en circulation. C'est en circulation transatlantique, mais qui inclut aussi l'océan Indien.
Merci beaucoup, Thaïs. Sophie, vous avez travaillé plus spécifiquement sur les enjeux un peu esthétiques, architecturaux et les choix qui sont faits à Nantes pour la construction du mémorial, de ce monument-bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce lieu dans les choix artistiques qui ont été faits ?
Oui, c'est intéressant d'en parler parce que ce qu'on voit aujourd'hui est finalement très distant de ce qu'avaient prévu les artistes au départ. Donc, je rappelle que la commande publique, elle date de 1989 et que l'inauguration a lieu en 2012. Donc, il se passe beaucoup de temps entre les deux. Et le projet initial, donc il y a d'abord appel à projet, sélection des artistes, donc 9 artistes d'ailleurs, tous internationalement connus, dont 3 se désistent. Et finalement, donc, on retire le projet d'un artiste d'origine polonaise, mais qui a fait l'essentiel de sa carrière au Canada et aux États-Unis, où il vit encore, il enseigne au MIT, hein, qui est Krzysztof Wodiszko. Et Krzysztof Wodiszko, c'est vraiment un activiste artistique. C'est quelqu'un dont le travail a énormément porté sur les monuments pour dénoncer, en fait, l'histoire cachée par les monuments, on peut dire ça comme ça. Et donc, dans son projet initial, qui est donc présenté à la municipalité nantaise qui est commanditaire en 2001, il y a plusieurs éléments. D'abord, la construction d'un, ce qu'on pourrait appeler un anti-monument, repose sur une enquête, sur la consultation des habitants. Ensuite, il doit y avoir un lieu de documentation, non seulement une salle d'archives qui sera souterraine, c'est-à-dire qui correspond à l'espace de l'actuel mémorial de l'esclavage, mais aussi une tour qui devait interroger, questionner, mettre en débat l'esclavage contemporain. Et puis, le projet devait être financé, ça aussi c'est à la fois symbolique, mais en même temps c'est assez fort, par une taxe sur le sucre et le café. Donc, toutes ces dimensions du projet, elles ont un coût, et la première élaboration, si je puis dire, prévoit 12 millions d'euros pour construire tout ça. Donc avec à la fois un centre d'interprétation, mais aussi un espace culturel et pédagogique, et un rapport nettement fait entre la traite négrière et l'esclavage contemporain. Mais entre la commande publique, le vote du budget, donc qui a lieu en 2004, et puis l'inauguration, d'autres choses se passent. Nantes Métropole devient maître d'ouvrage de la construction, l'État se retire du projet. Et puis pour finir, non seulement le budget est considérablement réduit, puisqu'on passe de 12 à 7 millions d'euros, mais il est complètement réorienté pour construire le mémorial actuel qui n'a pas du tout la dimension pédagogique. Enfin si, il a une dimension pédagogique, mais pas celle qui est prévue au départ, et surtout qui n'a pas du tout la dimension participative et activiste qu'avait le projet initial de l'artiste. Et donc, c'est couronné, si je puis dire, par l'intégration du mémorial dans le voyage à Nantes, dirigé par Jean Blaise, qui fait en fait que le mémorial d'esclavage va être un élément du marketing territorial de la métropole de Nantes et va être en quelque sorte vidé de sa dimension très combative et très activiste, hein, sur laquelle j'ai essayé d'insister ici. Bon, évidemment, tout ça nécessiterait beaucoup plus de détails qu'on peut en faire dans le cadre actuel. Mais enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, quand on visite aujourd'hui le mémorial de l'esclavage à Nantes, il est bel et bien réalisé par Wodiszko et par Julianne Bondard, mais il est très, très éloigné du projet initial. Je pense que c'est ça qu'il est important de comprendre, oui.
On comprend bien en vous écoutant ce décalage entre le projet initial, très combatif, et la dimension inclusive, participative, et ce qui existe aujourd'hui. Mais c'est un projet qui existe, qui a vu le jour, et qui, au moment de son inauguration, est salué. Parmi les prises de parole un peu informelles, les personnes qui sont là, qui sont filmées, qui sont interrogées, voici quelques mots de l'écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau.
C'est un mémorial qui est pensé de manière absolument extraordinaire, exactement dans l'idée selon laquelle les mémoires d'aujourd'hui, les histoires d'aujourd'hui se touchent. Elles ne sont pas closes sur elles-mêmes, elles ne concernent pas des absolus, mais qu'elles doivent dresser dans leur relation un rempart contre l'inhumain. Sachant que le vrai combat que nous avons à mener, c'est de comprendre que l'inhumain fait partie de l'humain. Et que si tous les humains ne se réunissent pas dans ce qu'ils ont de meilleur, et s'ils n'opèrent pas le partage des histoires et des mémoires, nous risquons de voir revenir les vieilles ombres et les vieilles terreurs. Et plus que jamais, un monument comme celui-là, qui est un monument ouvert sur Nantes, bien sûr, la mémoire de Nantes, mais aussi reliant Nantes à toutes les Amériques, à la Martinique, à tout le travail que nous faisons. Un monument comme celui-là, qui n'est pas simplement dans le pathos ou la culpabilisation, mais qui explique bien que ce lieu est un lieu de création, que de la cale du bateau négrier a émergé, je dirais, presque toutes les musiques du monde et presque toute la poésie contemporaine la plus déterminante. C'est à la fois, c'est quelque chose d'absolument important. Donc je tenais absolument à être là et à féliciter toutes les autorités de la ville de Nantes et toute la population de Nantes.
Alors, Thaïs, à ton avis, pourquoi est-ce que Patrick Chamoiseau ici remercie la ville de Nantes ?
Bon, Nantes est assez souvent présentée comme la ville qui a su assumer son passé lié à la traite esclavagiste. Donc, la statue La Délivrance a été exposée, par exemple, dans la première salle de l'exposition L'Abîme, dédiée à cette histoire au château de Nantes en 2022. Donc, pour justement revenir sur les processus de mémorisation de l'esclavage fait par la ville. L'accent, il est mis sur les courages qu'a eu la municipalité de Jean-Marc Ayrault de faire mémoire de cette histoire. Donc, d'une ville qui avait honte de son passé, on passe à une ville courageuse qui l'assume publiquement. Donc, la mise en récit public de ces passés devrait permettre, selon donc, ces discours, d'établir des liens plus justes et plus sains entre les personnes qui sont issues de cette histoire. Il y a donc une politisation des rapports au passé, donc qui permet à la municipalité de s'affirmer comme celle qui a guéri la ville de son histoire et ainsi se différencier de ses précédents, du maire précédent de la droite et d'autres courants politiques, qui a refusé d'ailleurs d'en faire mémoire. Donc cette mémorialisation de la traite à Nantes fait partie des politiques culturelles de la ville, donc menées depuis la fin des années 90. Donc Nantes, qui était un port désindustrialisé, a cette idée de diversifier l'offre culturelle, qui aussi donne lieu à une politisation d'un discours des crises liées à la désindustrialisation, qui va louer le développement d'un port culturel par la municipalité de Jean-Marc Ayrault. Et donc la mémoire de l'esclavage, elle va retrouver sa place dans ces discours de ces ports culturels. Si je peux faire une comparaison avec mon autre terrain de recherche à Rio, les vestiges archéologiques d'un quai esclavagiste de Valong, les plus grands ports esclavagistes de l'Amérique latine, a été découvert en 2011 lors des travaux faits pour accueillir les JO dans cette ville. Donc, ces quais, il est découvert, la municipalité ne sait pas quoi faire. Elle reçoit une énorme pression de la société civile et du monde universitaire pour en faire un lieu de mémoire, ce qui n'était pas du tout prévu au départ. Donc, c'est à la suite de ces mobilisations qu'a été créé dans cette ville un parcours mémoriel, un circuit urbain qui s'appelle les circuits de l'héritage africain. Donc, ce qui est intéressant pour montrer des différences par rapport au discours qu'on peut lire, qu'on peut écrire sur la gestion des mairies du passé esclavagiste. Par exemple, Eduardo Paes, le maire en question de Rio de Janeiro, il est souvent cité comme celui qui a créé ces circuits d'héritage africain. Par contre, ce qui est souvent mis en avant, c'est qu'il ne voulait pas faire un circuit et c'est dû à la pression exercée par ces autres acteurs que finalement la mémorialisation de ce passé a lieu dans la ville.
On voit bien dans tout ce que vous dites, Thaïs, Octave Sestor et Sofiane Le Terrier, on voit bien la part très forte de l'engagement de la société civile, des militantes, des militants, des personnes membres d'associations, des individus qui s'engagent et qui défendent la reconnaissance d'une mémoire qui jusque-là était absente du récit, des récits scolaires. Vous nous avez dit, Octave Sestor, que vous n'avez pas appris en fait à l'école l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. C'est des choses qui depuis ont été introduites. Et donc les choses évoluent, les choses bougent, y compris dans l'espace urbain et y compris dans la législation nationale, grâce à toutes ces actions menées qui convergent avec des moments de revendication politique plus larges. Est-ce que, Octave Sestor, vous avez vu des choses évoluer depuis plus d'une décennie que le mémorial maintenant a été inauguré? Est-ce qu'il y a eu des changements à Nantes dans l'espace de la ville, dans la manière dont la mémoire de l'esclavage et des résistances à l'esclavage existent? Est-ce que vous continuez à mener des actions? On vient d'entendre un extrait d'une veillée en l'honneur des victimes, des résistants et des abolitionnistes qui a eu lieu Square Toussaint Louverture à Nantes en 2012 avant l'inauguration du mémorial. Est-ce que ce type de veillée d'événements existent toujours et comment est-ce que ces événements vivent dans l'espace de Nantes?
Je crois que ça ne s'est jamais arrêté à Nantes. La lutte continue, la résistance continue. Toussaint Louverture, ce lieu qui s'appelle Toussaint Louverture, la nomination des espaces qui portent aujourd'hui un certain nombre de noms des anciens esclaves, C'est bien entendu, c'est le même groupe qui a fait pression sur la ville de Nantes. Hein. Et effectivement, la ville de Nantes est restée pionnière. Elle a continué d'une des actions que nous avions mises en place, c'est-à-dire la commémoration de l'abolition esclavage. Et venue dessus, aujourd'hui, la Fondation pour la mémoire, qui est présidée par Jean-Marc Ayrault et qui met au niveau national donc, le mois des mémoires, le mois de mai. Et à partir de là, le mois de mai, les associations nantaises se sont saisies effectivement de ce mois. Il y a énormément d'actions, soit organisées par les Africains, les Haïtiens, les Antillais. Il y a même, je dirais même les Malgaches. Il y a encore des résistances. Hein. Je vois qu'on tenait les comptes vient à interdire effectivement la pose d'une stèle l'année dernière. Mais je pense qu'il faut continuer. Il faut continuer à faire en sorte que nos jeunes, et il y a beaucoup de jeunes qui visitent le château des Ducs de Bretagne, le mémorial. L'éducation nationale s'en est un peu saisie, mais pas, on aimerait que ce ne soit pas simplement à Nantes, mais c'est la France qui est concernée par cette question-là. On voit effectivement aujourd'hui la problématique du racisme qui se fait jour à travers les immigrations. Et donc on sent qu'effectivement la pierre posée à travers, en mettant ce mémorial, me paraît une pierre forte. Qui doit faire des petits un peu sur l'ensemble du territoire français. On a effectivement je prends souvent cette phrase de Derek Obstenard qui depuis qu'il nous a écrit cette phrase lors de l'exposition des anneaux de la mémoire, il avait écrit cette phrase, et d'ailleurs cette phrase, ce que je veux dire, est écrite sur son épée d'académicien, la mémoire et la cité du monde. On peut pas oublier. On ne peut pas oublier, car si on oublie, on prend le risque de tout revivre. Et donc, nous aujourd'hui, le combat est plus actuel qu'hier encore, je pense.
Oui, et si je peux rebondir sur cette question, c'est intéressant parce qu'en 2006, lorsque les gouvernements créent la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, à Nantes, donc comme d'habitude, il y a une commémoration qui est organisée le 10 mai. Et la veille, le 9 mai, une marche des esclaves est organisée par des metteurs en scène et des acteurs locaux. Et donc, ils vont vraiment mettre en avant l'expérience des esclavisés, la souffrance, et qui vont occuper la scène publique d'une façon différente et qui vont reproduire donc, cette marche des esclaves lors de nombreuses années. Et que plus récemment, depuis 2014, c'est un collectif qui s'appelle les Cercles de Marronnage organise des commémorations, des visites marronnes de mémorial, parce que leur critique principale, c'est que les mémorials, c'est un mémorial de l'abolition de l'esclavage et pas un mémorial de l'esclavage. Et donc, ils veulent mettre en avant le fait que l'esclavage est considéré un crime contre l'humanité et donc que cette dimension soit vraiment problématisée sur la scène publique. Donc, depuis 2014, ils organisent des commémorations marronnes, ces visites et d'autres événements. Et cette année, en 2025, la commémoration marronne, elle figurait dans les programmes officiels avec beaucoup d'événements, même si ils ne reçoivent pas forcément des financements publics pour la réalisation de ces événements.
Depuis l'inauguration de ce mémorial, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, par rapport au projet artistique proposé par Vodichko et Combordaire, et pour lequel la ville de Nantes n'a pas effectivement donné suite, le projet a été modifié. Mais depuis l'indication de ce mémorial, il y a ce groupe-là qui conteste effectivement le mémorial, le fait qu'il n'est pas complet. Et ils se battent beaucoup actuellement pour que le code noir puisse rentrer dans le mémorial. Et c'est vrai que il y a des manques. Il y a des manques de ce mémorial. Et bon, c'est pas facile de faire entendre effectivement ces propos. Il faudra encore des luttes pour pouvoir apporter les éléments complémentaires.
Le mémorial vit aujourd'hui grâce à l'action de tous ces groupes, de toutes ces personnes engagées, de tout l'investissement de vous, notamment Octave Sestor. C'est un espace vivant où la lutte continue. Un mot pour terminer. Qu'est devenue la statue de l'esclavage de Lisa Marco-Derouard ?
Ben, comme nous l'avons confié donc à la ville de Nantes, il se trouve dans les réserves donc de Château des Digues de Bretagne. Et quand ils font des expositions d'importance, à ce moment-là, une salle est réservée à ces statues qui est montrée au public. Donc elle est là, elle a le témoin effectivement d'hier est bien présent. Donc justement, on voulait effectivement que cette statue reste comme patrimoine nantais. Donc il est devenu patrimoine nantais.
Merci. Octave Sestor, merci. Thaïs Tanur, merci. Sofiane Le Terrier de nous avoir parlé de l'histoire de cette statue de l'abolition de l'esclavage et des combats menés pour la reconnaissance de la mémoire de l'esclavage dans la ville de Nantes et dans l'espace français.
Et merci. À vous, merci pour le travail que vous faites.
Pour les sons, les musiques et l'enregistrement, merci à Mathieu, Jivago et Marie. Pour le montage et le mixage, merci à la fabuleuse Manon Beau. Enfin, merci au CPER Anamorphose, au laboratoire H2LI et à l'Université Paris 8. Un podcast produit pour Spectre.
Spectre.